Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui fait son putsch. Je suis 1A Pied, je vous accueille pour un podcast exceptionnel, le dernier podcast de l'année, et oui. Si j'arrive à le mettre en ligne dans les temps. Et surtout un podcast terrible, car c'est le premier podcast, on va dire, à peu près standard, pour lequel Thio n'est pas là. Il a été remplacé par Tizak, le barman DJ chroniqueur le plus violent du monde, qui lui a firfrogué une grosse grippe dans les dents.
C'est ça. Bonjour à tous.
Juste pour les fêtes. C'est vraiment très sympa de ta part.
Bah, j'avais fourré la dinde avec la grippe.
Ouais. Alors, on va faire une petite émission un petit peu tranquille, hein. On va pas trop se prendre la tête. J'espère qu'au niveau du son, ce sera pas mal parce que je teste un nouveau micro que j'ai eu pendant les fêtes.
Il est trop beau.
Oui. Donc, en gros, au niveau du programme, pas de chroniqueur extérieur cette fois-ci. J'ai décidé qu'ils allaient se reposer pendant les vacances,
hein. Joyeux Noël et bonne année à tous.
Voilà. Beaucoup d'express. On va essayer de revenir très rapidement sur des trucs que pas forcément, Ti n'a pas forcément lu, et réciproquement. Il était temps, on va vous parler de Page Noire, de Il était une fois en France, le tome 2, et du tome 1 des meilleurs ennemis. Et dans les bacs, on va vous parler de La survie de l'espèce et de Newark. En splash page, nous allons vous parler de la bande dessinée Chambre Noire, une bande dessinée en 3 tomes, le 3e tome est sorti il y a peu.
Et on dit merci.
Et on finira par du online, je vous parlerai du blog de Reineke, sur lequel il a fait une série d'articles sur le dessin animé Ernest et Célestine, qui est de toute beauté. On va commencer déjà par remercier tous les gens qui ont fait plein de commandes sur Amazon, parce que là, je sens que les bons d'achat vont tomber bientôt.
Spéciale dédicace à Nico et Sandrine, merci beaucoup.
Voilà. Je vous rappelle que quand vous cliquez sur la plupart des images de BD qu'il y a sur le blog, c'est des liens d'affiliation, vous achetez ce que vous voulez dessus, comme un objectif à 600 euros, par exemple.
137.
Oui, pardon. Voilà. Ça nous fait toujours plaisir, hein. Puis vous n'êtes pas obligés. Enfin, faites ce que vous voulez.
Si vous voulez m'acheter un objectif, vous pouvez aussi.
Ça va, hein. tu t'es déjà fait plaisir comme ça. Ensuite, vous remercier pour votre fidélité globalement. Le live s'est plutôt bien passé, on a eu du mal à s'en remettre. Voilà, d'ailleurs, Thio a eu tellement chaud qu'il s'est chopé la grippe, c'est ça.
Oh, tout de suite, Pechorouille.
On va revenir sur les 1A Club Awards qui ont super bien démarré. On a eu déjà pas mal de votes.
Moi, je suis plutôt
content. Donc vous allez sur le site, hein, il y a une petite rubrique 1A Club Awards. Nos prix sont toujours aussi débiles. Il y a quelques catégories où il y a du fight, quoi. Hein. Je pense au prix Hémoglobine où c'est assez serré entre The Boys, Invincible et Undread Bullet. Et Zorn et Dirna est pas loin derrière. Bon, pour le prix Chapiteau, alors là, je le dis, hein. Il y a la puce qui a tenté d'acheter les votes en envoyant son public voter nombreux pour lui. Même si, en gros, il est quand même en train de demander aux gens de voter pour dire que les gens fantasment sur sa BD. Il a lui-même avoué que si des gens se pignolent sur sa BD, il aimerait pas les rencontrer. Ce que je comprends, hein, parce que, voilà, on avait mis ça un peu pour rigoler dans la sélection. Les melons de la colère sont un peu loin derrière. J'espère que les fans de Bastien Vivès viendront se venger. Sur le prix de la BD à peu près historique, c'est serré entre Bloc 109 et Été une fois en France, d'une très très bonne chose, et pourtant les autres titres dessous étaient très très bons et ont été un peu moins attaqués.
Bah, tout était bon là-dedans, hein, donc c'était un peu compliqué de choisir, hein. Moi-même j'ai pas mal hésité.
Le prix Larmounette, alors 2 capés de crocs défonce tout, mais si
yes,
vous voulez voter pour autre chose, quoi, le Lorenzaccio est assez superbe, l'Attentat qui est super bien, qui fait bien chialer aussi.
Mais dans le doute, si vous hésitez, votez 2 capés de crocs.
Ouais, enfin bon, c'est pas la peine, ils sont déjà blindés, ça va. Hein. Le prix Joker, la BD qui fige le sourire, on a Tout mon rat moins bête et La marche du crabe qui se battent violemment.
Ouais, violemment.
Le prix Toilette, les geeks mènent fortement, avec psychanalyse du héros derrière. Donc Vendry, invite les gens à voter pour tes bandes dessinées, franchement. Hein, parce que c'est franchement de la bonne bande dessinée de Toilette et qui se prend pas la tête et on rigole bien. Et puis des beaux cadeaux à faire.
Je ne sais pas qui a voté l'Assassin Royal, mais merci. Enfin, je ne sais pas qui l'a fait.
Oui.
C'est sympa, au moins il y aura une voix.
Voilà. Pour le Brutal Deluxe, c'est serré entre Batman et The Goon, et Héraclès a tenté de s'en sortir derrière. L'objet bédéphile non identifié, alors Billy Bat, pff, fracasse tout le monde. Et pourtant, il y a du beau monde.
Pourtant, il y a Ultimex derrière, il y a Tokyo aussi. Bon, même si on n'a pas beaucoup aimé Tokyo, ça reste quand même un ovni là-dedans.
La BD qui s'auto-analyse, c'est... Tiens, d'ailleurs, juste pour revenir sur Tokyo, Johan Sfar a mis un article sur son blog aujourd'hui, où il dit que oui, il sait que personne n'a aimé Tokyo, mais qu'il a besoin de le faire et qu'il veut faire la suite.
Il a besoin, c'est, il fait sa thérapie ou...
Bah oui. Moi, la question, c'est, je veux bien qu'il ait besoin de le faire, maintenant, c'est, est-ce que quelqu'un a besoin de l'éditer?
C'est ça. C'est ça. Ça, c'est la vraie question.
Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. S'il peut se le permettre, on va... Clairement, je me mets à sa place. Je vais pas cracher dans la soupe. Le prix Isaac 2012, la BD qui s'analyse un printemps de Tchernobyl monte bien, et pourtant, toi, tu as voté pour Marcel et Retour.
Oui, mais j'ai hésité avec un printemps à Tchernobyl aussi. Voilà.
Et soit dit en passant, je trouve que pour de l'auto-analyse est bien réussi aussi. Et la BD qui fait peur, alors là, vous hésitez. Hein. Entre Lock and Key, Seul et Ikigami, il y a vraiment du doute. Et le petit grumeau illustré s'en sort pas trop mal, étonnamment.
Au niveau des parents, visiblement, qui votent.
Vous pouvez voter jusqu'au mois de février, je sais pas exactement quelle date, pour vos favoris. N'oubliez pas que ce sont aussi des votes de la mauvaise foi. On n'est pas là pour dire qui est vraiment la meilleure BD. De toute façon, il y a rien à gagner, à part qu'on dise qu'il a gagné l'auteur, il sera content.
Et puis avant de voter, n'hésitez pas éventuellement à aller vous renseigner sur les autres BD si vous ne les connaissez pas, essayez de vous renseigner
et écoutez les podcasts où on en parle.
Et écoutez les podcasts où on en parle, notamment 3 instincts. Je vais faire un peu de la pub pour le seul vote où je suis tout seul à avoir voté pour 3 instincts. Voilà, c'est du très beau boulot et si vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus, peut-être que ça vous fera voter.
Rassure-toi, si je me souviens bien, c'est moi qui ai voté pour Powers. Le seul dans son propre. Franchement, allez voter, n'hésitez pas à lancer des défis et des débats dans les commentaires pour dire que votre BD c'est la mieux.
Troller,
c'est là pour vraiment. Voilà, on est là pour rigoler avec ces prix, ça n'a rien de sérieux. Je rappelle aussi qu'on est toujours inscrit au European Podcast Award qui nous permettrait de gagner un petit enregistreur qui serait bien pratique pour les interviews. Puis même les gens qui votent peuvent gagner un enregistreur aussi. Donc ça peut valoir le coup. Allez-y, votez pour nous. Parce qu'il y a d'autres podcasts.
On est en train de perdre Pierrick. Je crois qu'il a mangé la même dinde que celle de Mathieu.
Comment tu parles de sa copie?
Oh mon dieu! Il a osé!
C'était trop facile. Votez. Bon, il y a des concurrents face à nous pour les European Podcast Awards qui sont énormes. Je pense que ça va être difficile pour nous de nous en sortir. Donc, allez-y, votez pour nous.
Soyez de mauvaise foi. Votez pour nous.
Ça nous fait toujours plaisir. Express. On peut commencer de suite, nous allons parler donc...
Non, tu prends ta feuille, je garde la mienne.
Dans le Express, alors on revient sur les 40 000 titres qu'on a en retard. Alors Batman Saga, on va parler du 6, sachant que le 8 sort ce mois-ci.
Mais tu fais quoi, Pierrick?
Je fais ce que je peux, je suis mon libraire comme je peux. Donc on retrouve toutes les séries Batman, avec celle de Scott Snyder et Greg Capullo qui encore sort du lot. Hein, donc c'est toute... La cour des hiboux, Batman est en mauvaise position, mais commence à essayer de remonter un petit peu.
Ouais, il est moins au fond du trou que dans le numéro précédent, mais bon.
Le Detective Comics de Tony Daniel, moi je le trouve sympathique, mais...
Sans plus sur celui-là.
Ouais, ça va pas sans plus. Le Batman et Robin, moi j'adore, donc Peter Tomasi et Patrick Gleason. On en apprend un peu plus sur le passé de Deckard, un des enseignants de Batman, enfin de Bruce Wayne avant. C'est sympa, mais petit peu facile, je trouve, la façon dont c'est conclu. Et le Batgirl.
Et Batman fait son apparition avec Batgirl.
Il y a Bruce Wayne.
J'allais dire, Batman est dans Batgirl.
C'est intéressant, mais j'ai vraiment du mal avec les dialogues de Batgirl, la façon dont c'est raconté. J'arrive pas à accrocher.
Oui, on avait compris dès le premier numéro.
Globalement,
déjà
c'est un titre de qualité, le Batman Saga. Moi, je le recommande fortement, surtout qu'il ne coûte que 5,60€ et qu'il y a de la BD de qualité.
Très bonne qualité, plein d'histoires sympas.
Un truc que vous pourrez peut-être encore trouver en kiosque, c'est le Batman Saga HS numéro 1 de Scott Snyder, dessiné par Trevor McCarthy, et puis avec un petit feeling de... Pardon. J'ai vraiment la voix fracassée, je sais pas ce que j'aime. Avec un petit feeling de Dustin Nguyen, que j'aime beaucoup, Dustin Nguyen, même si là, c'est un peu bizarre ce qu'il a fait. Globalement, ça va nous raconter les origines de Gotham City, et les origines des portes de Gotham City, c'est-à-dire les ponts qui relient Gotham City, qui est un peu comme Manhattan, quoi, au quartier à côté, comment ça s'est fait, sachant que ça a été construit, le projet a été lancé par les ancêtres Wayne, les ancêtres du pingouin, l'ancêtre de Silence, dont j'ai oublié le vrai nom, donc c'est un des grands méchants, etc. C'est sorti avant le nouveau 52, donc avant qu'il fasse le reboot de tout l'univers DC Comics, mais ça reste dans la continuité, c'est intéressant de découvrir un peu Batman raconté par sa ville.
Ben, je l'ai pas lu, mais pour le coup, il y donne vachement envie. Alors voilà. Après, le dessin, je reste un petit peu perplexe dessus.
Il colle très bien.
Mais voilà.
Il passe mieux dans les scènes un petit peu de flashback, où on voit le passé, que dans les scènes contemporaines, où il y a un côté un petit peu cartoony, tu vois. Qui...
Ouais, le côté cartoony sur Batman, j'ai du mal. Hein,
mais au niveau de l'action, ça passe très bien. Moi, je trouve que c'est une histoire complète, pour le coup, à 5,60€. 6 numéros recueillis dedans, donc...
Ouais. Il donne envie.
Très sympa. Marvel Knight numéro 5. On retrouve encore Daredevil, Ghost Rider, Punisher, Spider-Man et Winter Soldier. Oui, alors Spider-Man, il est un invité. Vite fait, Winter Soldier, qui est la série qui marche bien. Je trouve que c'est un peu brouillon, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est un peu dommage. Il y a un crossover entre Daredevil et Spider-Man qui est plutôt sympathique. Je crois que Thio n'aurait pas forcément apprécié derrière.
Ça y est, Daredevil a arrêté de faire des bonhommes de neige.
Ouais, mais voilà, on voit l'intrigue qui progresse. Un travail sur la relation entre Black Cat et Daredevil assez surprenant. Bien sympa. Ghost Rider, bah moi j'aime toujours beaucoup le dessin, mais le scénario est toujours aussi pourri.
Rien de neuf sous le soleil.
Et The Punisher, c'est toujours ce polar noir super. En plus, le coup du bandeau sur l'œil du Punisher, ça lui donne un look de la mort, je trouve. Ce look barbu, enfin, il a la classe, quoi. Et donc, bah, moi, je trouve que globalement, c'est une bonne revue qui vaut le coup lire. Il y a pas mal de séries dedans. 5,70€ pour des tonnes de bandes dessinées. C'est plutôt bien.
Assassin Royal tome 5, donc là, malheureusement, j'ai déjà rendu la BD, on ne l'a pas sous les yeux, mais on est dans la continuité de ce qui s'est fait sur les 4 premiers tomes. Le rythme, qui était très 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 rapide au début, se calme petit à petit, et on se rapproche de ce qu'on peut vivre en lisant les romans. On commence à avoir vraiment la même ambiance que dans les romans. Donc
ouais, t'avais du mal avec l'ambiance des premiers tomes, et là, d'un coup, ça commence à...
Voilà,
tu rentres dedans.
C'est ça. Le début, on est allé... Enfin, je pense que c'est un choix volontaire, hein, d'aller très très vite au cœur de l'intrigue, parce que bon, ça prend, je sais plus, 13 tomes ou un truc comme ça. voilà. Donc, on va très très vite sur les 3 premiers tomes, le 4e se calme un peu, là, le 5, clairement, on ralentit, et on a un vrai morceau sur un album, voilà, ça devient sympa, le dessin s'affine aussi petit à petit, bref, ça s'améliore, c'est sympa.
Enfer et Parodie tome 2 chez Bacabédé. Alors Enfer et Parodie, on avait déjà parlé du tome 1, donc je vais aller assez vite. C'est toujours des petits strips, des petits dessins qui parodient des personnages connus de la culture populaire dans des situations loufoques, qui mettent en avant un petit peu leurs faiblesses, leurs failles et le côté un peu débile. Ça fait référence à beaucoup, beaucoup de cultures populaires, cultures un peu geek, hein, je veux dire. Quand on voit Tail de Sonic avec un Pokémon qui a des tonnes de queues, que je sais même pas comment il s'appelle, tu vois. Yoshi et Casimir, les Ghostbusters face au gentil fantôme Casper, etc., etc.
Ouh, j'ai vu Todd.
C'est franchement sympathique. En plus, le dessinateur Johan Morin s'est associé avec Jean-Christophe Almodovar et Thomas Bornier pour rajouter un petit peu plus de trucs. J'avoue que j'ai un peu du mal avec le dessin des autres auteurs. Moi, j'aime beaucoup le dessin de Johan Morin. J'ai un peu plus de mal avec les autres. C'était les auteurs de Damien, d'ailleurs, qu'on avait chroniqué. Ça marche bien. C'est de la bonne BD cadeau, je pense. Même si, comme ça, moi, à tout lire d'un coup, ça fait un petit peu... saturation, quoi. Mais franchement, vous laissez ça dans vos toilettes, vous passez un très très bon moment à en lire 2-3 pages de temps en temps, c'est plutôt cool.
Bon, puis c'est sympa quand on reçoit des gens à la maison qui feuillettent 2-3 pages dedans.
The Boys numéro 16, on arrive à la fin de The Boys.
Ouais, et franchement, il est bon celui-là.
Ouais, il est bon.
Il est bon. C'est du bon The Boys. Donc on a l'histoire de Jack qui s'est un petit peu fait piéger. On sait pas, je vais pas trop dévoiler, mais voilà, il y a une histoire de manigance pour pour essayer d'inciter à un fight entre les super-héros et les boys.
Voilà, forcer les boys qui sont là pour survivre les super-héros à lancer vraiment le contact, quoi, à y aller à l'action violente.
Voilà, et donc on suit le des deux côtés, côté super-héros et côté de boys, les investigations, le pourquoi du comment, ce qui se trame un petit peu derrière, c'est très sympa. Je n'ai qu'une chose à vous dire.
Surtout qu'on voit que aucun des deux n'a envie de... Les deux camps veulent pas y aller au fight.
Les deux camps sont assez frileux, donc là où on pourrait se dire les super-héros, franchement... Bah ça reste des super-héros, ils ont plein de pouvoirs à revendre. Eh ben ils ont pas très envie quand même d'aller au combat face à des êtres humains dits normaux ou presque.
Ouais, enfin ils carburent V, le truc qui donne de la super force.
Ouais, non mais là faut pas trop le dire. Enfin bref, donc toujours est-il que recommandation de la fin de l'année, aimez les chiens.
Voilà.
En le lisant vous saurez pourquoi.
Moi j'ai trouvé le tome sympathique. On s'approche de la fin, on sent que je crois que c'est le prochain, le dernier. Hein.
Bah là, on se rapproche.
J'ai un doute là-dessus. On va avoir vraiment le final bientôt et je pense qu'on en parlera plus longuement, autrement qu'en express, à l'occasion.
C'est cela.
Il était temps. Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne.
Et donc on passe à Il était une fois en France, tome 2, Le vol noir des corbeaux.
On a du retard, hein. Le tome 6 est sorti il y a peu, c'est le dernier, ouais, on est à la bourre. Hein.
On est dans la rubrique Il était temps, ça s'appelle comme ça, c'est pas pour rien. Donc on continue à suivre les aventures des frères Jonovici, mais principalement, j'ai oublié son prénom bien évidemment, je ne l'ai pas retrouvé, qui est toujours notre ferrailleur préféré, qui roule pour ses fesses et pour sa famille, et qui est prêt à trahir un petit peu toutes ses convictions pour pouvoir les sauver de l'occupation. Donc là, les Allemands sont bien installés en France, l'occupation a bien commencé, et les contacts qu'il a pu tisser pendant le début de la guerre vont s'avérer fructueux, même si tout est toujours à remettre à plat, puisqu'il y a des luttes internes au sein de l'armée allemande. Et donc il continue à faire son trou et à sauver ses intérêts, à sauver les intérêts de sa famille. Mais on sent quand même que c'est quelqu'un qui a une vraie conscience malgré tout derrière et que ça lui pèse de devoir renier tout ou partie de ses origines.
Bah, ça lui pèse, mais quelque part, il fait quand même le choix, quasiment tout le temps, de penser à lui. C'est-à-dire qu'il a eu une opportunité, dès le début, hein, de se casser, d'aller se mettre à l'abri avec sa famille. Mais il a d'un coup une contre-opportunité de faire des thunes et c'est ça qu'il choisit.
Ben, il n'oublie pas d'où il vient et il n'oublie pas qu'il sort du ruisseau, qu'il sort du caniveau et que ben, l'argent c'est un peu le nerf de la guerre et il a une opportunité de sauver sa famille et de faire de l'argent, donc ben, il sauve sa famille et lui il reste sur place pour faire de l'argent. Donc il ménage à chaque fois la chèvre et le chou. Mais bon, bah forcément, il a des concessions à faire sur ses valeurs et bon, bah, il sait qu'à chaque fois, il se met un coup de canif à son amour propre, quoi.
Bah, surtout qu'il se retrouve avec des gens en face de lui qui sont de plus en plus durs, de plus en plus difficiles et qui connaissent sa situation et qui essayent d'en profiter de plus en plus.
C'est ça. En fait, il a autant d'amis bien placés que d'ennemis bien placés.
Voilà. Et puis des ennemis avec qui il est obligé de travailler.
C'est ça.
Qui l'oblige à travailler avec lui.
Qui l'oblige à travailler avec lui. Voilà. C'est beaucoup de sourires en coin, de sourires faux cul, etc. Mais voilà. C'est ce qui participe aussi à l'ambiance de cette BD. Rien n'est jamais acquis. Il y a rien qui est stable. C'est toujours très prenant, je trouve. Et puis il y a plein de rebondissements.
Au niveau du jeu, genre, on a dit que c'était de l'espionnage historique parce que tu trouvais qu'il y avait une côté ambiance d'espionnage.
C'est ça. Il y a ben, ce côté justement scénario à tiroir. Enfin, pas à tiroir, mais avec à chaque fois, chacun peut faire un coup bas à l'autre et chacun est en train d'espionner avec quelqu'un qui est placé dans le camp adverse.
Voilà, enfin, plus le tailleur de Panama que James Bond.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. Non, on n'est pas trop dans les gadgets avec... Non, voilà. Mais c'est beaucoup d'ambiance de renseignement. Voilà, on est vraiment dans les renseignements.
Oui, lutte d'influence, lutte d'information, qui va avoir les infos, qui va réussir à faire avoir les papiers qu'il faut bien.
Exactement.
Quelques plans sont assez effrayants quand ils commencent. On voit comment sont organisés les dossiers quand ils vont pour se renseigner pour savoir le gars s'il est juif ou pas, machin ben, chose.
On a les listes de juifs et de non-juifs qui sont mises en place, la rafle du Veldiv qui est montrée partiellement, les examens médicaux poussés pour connaître l'origine religieuse de chaque personne.
Un examen médical pour connaître l'origine religieuse, c'est la classe.
C'est la classe,
c'est, bon
la, c'est la grande classe. Ah, c'est ça. Bref, c'est très bien retranscrit, l'ambiance de guerre, je pense. Enfin, d'occupation est très bien retranscrite. C'est toujours plaisant à lire. C'est de belles recherches, un beau dessin. C'est Pierrick, tu le mot que tu as choisi pour la partie dessin.
Moi, j'ai mis cinéma.
Moi, j'ai mis plan large parce qu'on est vraiment sur cette idée-là.
Voilà, le dessinateur joue beaucoup, donc Sylvain Vallée joue beaucoup, toujours sur des plans larges. Je l'avais déjà souligné en parlant du premier, sur des cases très longues en fait, dans lesquelles il va pouvoir accentuer un regard aussi un peu à la Western Spaghetti, tu vois. Oui. Le cinémascope Western Spaghetti.
Il abuse pas trop des regards. Il est souvent. Moi, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de sourire en coin parce qu'on est souvent sur l'attitude de la bouche.
Bah, c'est un dessin très expressif, hein. Il est juste caricatural ce qu'il faut pour vraiment bien faire ressortir les expressions, les émotions, et pour que le scénariste ait pas besoin d'utiliser de mots, en fait, pour dire ce que ressent le personnage. On arrive à comprendre ça par le dessin. C'est un dessin qui, au premier coup d'œil, en feuilletant vite fait, peut sembler assez quelconque, mais qui, si on s'attarde un peu dessus, est vraiment, vraiment une grande réussite, je trouve, dans cette BD.
Complètement. Les dessins sont toujours bien choisis pour justement minimiser la quantité de texte à mettre. C'est très cinéma, effectivement, dans l'approche. L'image sert le scénario. C'est très bien fait.
Sur le scénario, moi, j'ai mis Zone d'ombre parce que je trouve que vraiment, Fabien Nury va chercher dans les zones d'ombre de l'occupation. Toutes les choses, tout ce qui se traitait en coulisses, tout ce qu'on retient pas dans l'histoire, la petite histoire,
la petite
en
histoire,
fait, qui est cachée au milieu de la grande histoire et qui a pourtant toute cette importance. Et puis c'est aussi les zones d'ombre de ces personnages. En se retrouvant dans une situation où, bah, il y a pas vraiment de gentils, il y a pas vraiment de méchants. Enfin, si, les méchants, c'est les nazis, ils sont méchants. Et encore, il y en a certains qui pourraient avoir, enfin, tout le monde n'est pas un enfoiré, quoi.
Et chacun est là pour faire son job, en fait. Hein. Donc, chacun reçoit des ordres et chacun essaie de survivre dans tout ça. Hein. Parce que même les nazis, entre eux, se mangent le foie parce qu'il y a des luttes internes de pouvoir. C'est,
oui,
rien n'est facile aussi pour les dirigeants en place pendant l'occupation.
Bah, globalement, hein, c'est une bonne BD. J'ai hâte de lire la suite. On espère que Thio va nous acheter ça vite fait, hein, quand même.
Hein, ouais, Thio, hein, on se réveille un peu, on sort de la grippe et hop, hop, hop.
De toute façon, il ne nous écoutera pas. tu le connais. Les meilleurs ennemis, première partie, 1783-1953, sous-titré Une histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Oh, voilà le résumé déjà tout fait. C'est écrit par Jean-Pierre Filu et David B. Jean-Pierre Filu, je crois que c'est un spécialiste de la période, enfin des relations entre l'Orient et l'Occident. David B. est un illustrateur qu'on avait découvert chez l'association avec du Homal. Zut, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais ça finit par le Homal, qui est une très bonne BD. J'ai le premier tome dédicacé, il faudrait peut-être que j'arrive à choper les autres. Et bah en fait, ça nous raconte toutes les origines des luttes entre l'Orient et l'Occident, en commençant par les luttes de contrôle maritime, pour arriver vers la fin de ce tome-là, vers des luttes un peu plus proches de l'espionnage.
On est dans de l'économie et de la géopolitique, et puis forcément, vu qu'il y a des enjeux financiers, il y a forcément de l'espionnage.
On a appelé ça un pamphlet historique pour le genre. Et pour le scénario, je vais y aller direct sur le scénario. Moi, j'ai mis que c'était dense. J'ai été largué sur le début. C'est-à-dire que le début, ça nous raconte mais des centaines d'années en super accéléré.
Ouais, mais c'est bien foutu.
Avec, tu diras le positif, parce que moi, j'ai eu du mal. Franchement, bon, faut dire, je suis pas un spécialiste de la géopolitique. C'est pas des sujets qui m'intéressent vraiment à la base. Je reconnais l'intérêt de la BD. J'ai pris du plaisir. Ah oui, d'accord. Ah oui, déjà à l'époque, tu vois, il y avait ça, etc. C'est très très bien écrit, mais on est dans une succession de faits, pouf, 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 qui se suivent. C'est un peu... J'aurais apprécié qu'ils prennent plus de temps pour raconter les événements. C'est-à-dire que, en gros, bah, vu que son objectif, c'est de vraiment raconter la relation, dans la première partie du bouquin, quand il va nous raconter une bataille, il va nous faire ça en une case, quoi.
Ouais, mais ça suffit. Enfin, vas-y, fini.
Il prend un peu plus son temps, tu vois, vers la deuxième partie, quand il arrive un peu plus dans le XXe siècle. Hein, il va un peu plus dans le fond, dans les relations diplomatiques, les ambassadeurs, les conflits, les luttes de pouvoir, qui va négocier quoi avec qui, sur la base des vieux traités dont ils étaient obligés de nous parler au début, hein, pour qu'on puisse savoir d'où ça vient. Mais globalement, moi je m'y suis pas mal perdu. J'ai raccroché ce que je disais à la deuxième partie, un peu le scénario. Mais c'est tellement dense que si je veux en retirer quoi que ce soit, faut que je le relise plusieurs fois, chose que je ne ferai pas.
Ah bah alors voilà, mais moi j'ai l'avis presque à l'opposé, c'est-à-dire ouais. Que pour moi,
ouais yes,
on sait bien d'être au moins à deux.
C'est ça.
Donc pour moi l'objectif final de la chose, c'est d'arriver à comprendre au jour d'aujourd'hui les relations géopolitiques entre le Moyen-Orient et l'Occident, donc au sens large l'Occident, hein, c'est principalement les États-Unis. Et du coup, ça explique le pourquoi du comment. Au début, on va très vite. D'une part, les États-Unis n'existent pas vraiment au tout début.
Oui, c'est encore les révolutionnaires américains.
C'est ça, on est plus proche des Français et des Anglais qui gèrent le truc. Et puis, pouf, les Américains qui vont y trouver un intérêt. Après, un petit peu plus tard, ils vont faire les gendarmes du monde. Mais au début, c'est ils ont vu qu'entre les Anglais et les Français, machin, ça tournait pas bien rond. Et pouf, ils viennent
au début, les plus forts, c'est l'Orient.
Voilà, au début, clairement, les plus forts, c'est l'Orient. Ils sont en place, ils sont chez eux.
Les Américains sont dans la merde. Hein. C'est un petit pays de merde avec
exactement,
rien du tout.
Ils sont pas bien organisés, voilà. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'au début, ça va relativement vite. Et effectivement, certaines batailles se font en une case, et on a des successions de cases comme ça, avec la bataille à tel endroit, la bataille à tel endroit, la bataille à tel endroit, qui ont à chaque fois des conséquences. Et je trouve ça très bien expliqué. C'est le début, c'est simplement avoir les clés pour comprendre la tournure des négociations de la suite qui se passe par la suite. Donc moi je trouve ça bien, justement ça évite qu'il y ait trop d'informations inutiles, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça évite justement le trop plein d'informations inutiles. Là où ça devient vraiment un petit peu plus complexe, eh bien il prend plus de temps. Et on arrive malgré tout à tout comprendre. Donc pour moi, clairement, c'est le bouquin à offrir à un lycéen aujourd'hui, parce que ça va lui permettre de comprendre un petit peu ce qu'on lui raconte en cours d'histoire.
Ça manque de filles à poil pour un lycéen quand même.
Ouais, bon, bah, en plus d'offrir celui-là, vous offrez en même temps un manga quelconque. Mais voilà, vraiment, celui-là, c'est vraiment génialissime parce que c'est très très clair. Les dessins sont absolument géniaux. Alors, pour la partie dessin, j'ai noté surréaliste.
Moi, j'ai mis symbolisme.
Voilà. Même les petites cases sont absolument riches de symboles, d'anecdotes, de voilà. Enfin,
David B. Donc, c'est du noir et blanc. Mmh. David B. a un travail du noir et blanc qui est très dense. Hein, il n'y a pas de niveau de gris. Ses noirs sont très travaillés. Ses ambiances sont très travaillées. C'est un dessin très simplifié, qui a un peu fait école d'ailleurs. Il y a pas mal de dessinateurs qui ont repris un peu un style qui en rapproche. Je sais pas si c'est une coïncidence, etc. Mais Marjane Satrapi, un style qui s'en rapproche un peu aussi.
Complètement.
Aussi à l'association à l'époque. Moi, je trouve qu'il a un style graphique en plus qui est très oriental.
Oui.
Qui va très bien avec. Et effectivement, cette richesse, c'est la richesse dans les symboles, dans les détails. Dans les pages où il y a des imbroglios de personnages qui se mêlent, qui se mélangent.
Les scènes de négociation sont absolument magnifiques. Les scènes de bataille, enfin, on a l'impression d'être dans des espèces de petites historiettes qu'on pourrait retrouver dans un journal façon caricature.
Par contre, on est plus dans l'illustration du texte que dans la narration, tu vois.
Ah oui, complètement.
Voilà. C'est pas narratif comme dessin. Il n'y a pas de recherche de fluidité du passage d'une case à une autre. On a un bloc de texte, on va mettre une image dessous.
C'est ça. Ça pourrait être un recueil de justement de petites anecdotes, de petites caricatures qu'on aurait pu trouver dans des journaux, mises sous forme d'anthologie, les unes à la suite des autres. En tout cas, enfin à l'arrivée, personnellement, ça m'a rafraîchi sérieusement mes vieux cours d'histoire. Ça m'a donné plein d'informations supplémentaires dont je n'étais pas forcément au courant. Et pourtant, de manière assez claire, finalement. Alors après, effectivement, se souvenir de tout, ça reste assez complexe. Et là, je suis d'accord avec toi, il faudrait le relire plusieurs fois.
Après,
moi, je pense que je le relirai
plusieurs
fois.
Ça se relit bien.
Voilà, moi, clairement, celle-là, elle fait partie des BD que je pourrais avoir sur ma table de chevet. Enfin, d'ailleurs, c'est la mienne, donc elle sera sur ma table de chevet ou dans mes toilettes. Et puis, par-ci, par-là, relire une succession de pages pour revoir des choses. Enfin, voilà, c'est vraiment du très, très beau travail.
Bah, c'est chez Futuropolis, ça coûte 20€. Et bah, c'est recommandé parce que c'est bien.
C'est ça.
Oh, mais on... Oh là là, on va faire un numéro Futuropolis, je viens de me rendre compte, il y a du Futuropolis dans tous les sens.
Ouais, mais en même temps, quand t'as des éditeurs qui font de la qualité...
Ouais, en plus, pour une fois, c'est quasiment pas que des SP, tu vois.
C'est ça. Ah oui, mais là, pour le coup, en plus, c'est des bouquins que j'ai achetés moi.
C'est vrai.
Truc de dingue. Page noire, encore chez Futuropolis.
De Giroud, Lapierre et Ralph Meyer.
Lapierre ou Lapérière ?
Lapierre.
Lapierre, pardon. Je te laisse faire la présentation.
Comment résumer ça ? En fait, on suit en parallèle deux histoires.
C'est ça.
L'histoire d'une jeune journaliste.
Une très jeune journaliste.
Qui essaye de trouver des indices sur un auteur de roman. Qui, en gros, travaille sous pseudo, est introuvable et n'a jamais accepté une interview. Et elle, bah, elle veut utiliser la rencontre avec ce gars-là pour en faire bah, l'article de sa vie, quoi.
Ça commence un peu comme un mauvais téléfilm à M6 où la nana ou un mauvais Lois et Lane, un mauvais Lois et Clark où on a la jeune stagiaire qui est dans la rubrique toute pourrie du journal et qui a envie de monter en grade et qui trouve cette idée-là pour créer effectivement l'article de sa vie.
Et en parallèle, on suit l'histoire d'une orpheline qui a des cauchemars, qui fait des cauchemars sur bah, le moment où elle a été abandonnée, où ses parents ont été tués en fait, qui essaye de se réintégrer jusqu'au moment où elle reçoit un colis d'une poupée qui est la poupée qu'il y avait sur le lieu où elle est, où ses parents ont été tués.
Et donc,
elle essaye de remonter la piste pour trouver l'assassin de ses parents et mener sa vengeance à bien.
C'est cela.
Et ensuite, ces deux récits en parallèle, en se disant, à un moment, ça va se relier. Mais alors, on n'a aucune idée, parce que l'orpheline, elle, ça se passe en France. Et l'autre histoire, c'est purement du roman américain. Hein, ça fait très thriller américain. Et on a deux genres d'histoires parallèles. J'ai l'impression, tu sais, que tu as le roman français un peu moderne, tu vois, de la bonne femme qui veut remonter à ses origines pour trouver ce qui va se passer, etc. Et de l'autre côté, le récit d'enquête journalistique à l'américaine, bien chiadé, hein, bien foutu, ouais, ouais. Plutôt cool, où bien sûr, elle va finir par le rencontrer, le gars, il va y avoir un peu de trucs qui va se faire entre eux. Et à chaque fois, deux styles graphiques différents.
Deux styles graphiques très différents. Donc moi, pour le dessin, j'ai noté monochrome, parce que on est sur des ambiances de couleurs très différentes quand on est sur la romancière américaine, enfin sur la romancière, pardon, sur la journaliste américaine ou sur la réfugiée de guerre. Les couleurs sont bien choisies d'ailleurs. Et ça nous fait basculer à chaque fois d'une ambiance à l'autre de manière quasi instantanée. Je trouve ça rien de novateur. Je ne trouve pas ça très novateur, ça a déjà été utilisé plein de fois, mais c'est bien utilisé. Ça fonctionne très bien. Voilà, moi c'est ce qui est, pour la partie dessin, c'est ce qui m'a c'est ce que le dessin m'a le plus évoqué.
Alors clairement, alors il faut aussi qu'on cite, je pense, Caroline Delaby aux couleurs, parce qu'en fait on a deux techniques de travail différentes. On a la technique de tout le passage donc avec la journaliste qui est du dessin au trait colorisé informatiquement à l'ancienne.
Informatiquement à l'ancienne.
Oui, l'informatique c'est vieux mon gars, on n'était pas nés quand c'est sorti. Ensuite, on a tous les passages avec l'orpheline, qui sont là, sont alors en couleur directe. Alors, je crois que le terme c'est pas couleur directe, j'ai eu un débat avec un auteur, ouais c'est assez particulier. Bon en gros, il n'y a pas de dessin au trait, c'est vraiment la couleur posée directement sur la planche, je sais pas si c'est fait...
Informatiquement
ou pas, je ne saurais pas dire, j'ai pas assez l'esprit d'analyse de la technique pour ça. Et puis aussi des choix de couleurs. On est dans des couleurs très très chaudes pour l'orpheline et dans des couleurs très froides, limite délavées, pour tout le côté avec la journaliste. Et c'est super bien fait, et en fait, pour dire à quel point c'est bien fait, il faudrait qu'on spoile la BD en fait.
C'est ça. Et comment on veut pas le faire?
Parce que c'est du méga thriller, il faut pas.
On va vous dire ô combien c'est bien et on va vous dire ô combien il faut courir chez votre libraire préféré pour aller l'acheter.
Voilà, Giroud et Lapierre ont fait un travail scénaristique, mais c'est au cordeau, quoi. C'est ciselé, c'est vraiment un grand plaisir à lire. Si vous aimez les polars, je pense,
oui,
globalement, Voilà, tiens, moi pour le scénario, j'ai mis superposition.
Moi j'ai mis tiroir parce qu'effectivement on passe de l'un à l'autre. Et...
Donc si vous aimez les polars bien écrits, si vous aimez les graphismes un peu chiadés, on aura tendance à préférer le côté couleur directe que le côté au trait. Et pourtant ça va bien. Moi j'aime beaucoup le dessin de Ralph Meyer à la base, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Le boulot sur le scénario est magistral. C'est
gros travail sur la timeline, c'est génial.
C'est superbe, voilà. Moi, je crois qu'on a dit ce qu'il fallait pour le recommander. Il s'en est fallu de peu qu'il finisse en splash page, mais on a tellement de trucs qui auraient pu finir en splash page que...
On peut pas tout faire.
Dans les bacs.
Oh, une BD chez Futuropolis.
Oh.
Et Arte Édition.
Et là, franchement, c'est la classe. Je veux dire, quand on commence dans le podcast à bosser sur du Arte Édition, c'est que vraiment là, on tape dans le haut du panier, les gars.
La survie de l'espèce par Paul Jorion au scénario et Grégory Maclès au dessin.
Alors, quand on prend le bouquin, à ne pas confondre avec un The Goon. Parce que la police de caractère.
Ouais, le côté un peu.
Ça rapproche.
C'est vrai que ça fait pas mal pour ça, The Goon,
voilà,
effectivement.
Voilà, mais franchement, aucun rapport avec The Goon.
Oui, même graphiquement.
Mais pourtant, c'est assez violent. Pierrick, tu veux bien nous donner ton mot, s'il te plaît, pour le scénario?
Vas-y, fais un résumé ensuite. Alors déjà, pour le genre, c'est un essai économique. Oui, c'est un essai économique en bande dessinée.
En bande dessinée. Alors, sur le même principe que tout à l'heure avec les meilleurs ennemis, on expliquait un petit peu l'histoire des relations américaines avec le Moyen-Orient. Là, on explique le capitalisme. C'était un peu le capitalisme pour les nuls. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on en est dans cette société-là, avec des dirigeants qui gagnent ce qu'ils gagnent, des grandes familles et des actionnaires qui gagnent ce qu'ils gagnent, et puis le reste de la population, nous...
Et les 99%.
C'est ça, les 99%, nous qui travaillons ou pas d'ailleurs, et qui devons quand même participer à la vie de la société. Et où on a un petit peu l'impression, l'air de rien, de se faire agrandir un petit peu la pièce de rondelle.
C'est très didactique.
C'est extrêmement didactique.
Voilà. C'est très bien écrit. Alors moi, le scénario, j'ai mis blasant. J'ai hésité avec un autre mot qui est poppers. Parce que ça se dilate pas mal quand même, hein, quand on a fini de le lire.
Moi, je l'ai lu aux toilettes.
D'accord. Blasant, parce que on lit ça et à la fin, on se dit, ok, super. Voilà dans quelle société on vit. C'est très très convaincant. Même si je pense que...
Alors, ça reste un point de vue très...
Voilà, ça vaudrait le coup d'avoir des points de vue derrière. Mais le démarrage est tellement simple, la façon dont c'est expliqué, avec c'est bourré de pop culture. Hein, il nous explique que Raran, en fait, Ran-Ran, il le surnomme, là. Il se fait péter la gueule par un mec plus fort qui lui dit « va travailler pour moi », quoi.
C'est ça.
Et que le mec plus fort lui a dit « vas-y, invente-moi un outil ». Puis là, il avait un outil pour lui retaper dessus en lui disant « maintenant, invente-moi un outil plus fort », et ainsi de suite. Et puis après, ils ont remplacé l'outil par l'argent.
C'est ça.
Et on suit un peu tous les points de vue. Et il y a un truc qui est pas mal, c'est que le point de vue du capitaliste se défend un peu. C'est-à-dire dans la situation dans laquelle il se retrouve.
Ouais, on va dire que les héritiers du capitaliste primaire se retrouvent effectivement à sauvegarder leur patrimoine, leur train de vie.
Mais en fait, le problème qu'il y a quand ils
sont dans
le bouquin, c'est que ce qu'on nous explique, en fait, c'est que c'est la base qui est pourrie.
C'est ça.
C'est que, une fois qu'on est dans le système, soit on le subit, soit on l'utilise.
Même si on n'est pas d'accord, quand on est dans l'autobus lancé à 200 à l'heure, on est dans l'autobus lancé à 200 à l'heure.
Voilà. Et c'est vrai que... Voilà, on finit, on sort de cette BD en disant, ouais, super, on est content, c'est sympa.
Je lirai simplement le sous-titre. Hein. Un essai dessiné incisif, humoristique et pas complètement désespéré.
Et pourtant, Paul Jorion est un théoricien. Enfin, je crois qu'il est considéré comme une sorte de théoricien de l'apocalypse économique, parce qu'il part du principe que de toute façon, notre système économique va dans le mur.
C'est un petit peu.
Et c'est la démonstration qui est faite.
C'est la démonstration qui est faite là, et c'est un petit peu le sentiment, on va dire, général de toute façon. Bref, les personnages sont très très caricaturaux, très stylisés.
Oui, au niveau du dessin, c'est
très bien foutu. Donc le capitaliste est bien sûr représenté par le petit bonhomme du Monopoly, avec sa petite bouille sympathique et son chapeau haute forme, qui est en train d'expliquer donc le capitalisme à son fils.
Le capitalisme d'ailleurs qui est représenté par un gros militaire américain.
Oui, alors là, c'est c'est ce qui a remplacé la massue du primate. Hein. Donc, il est remplacé par l'autorité suprême, à savoir l'armée.
Et l'homme normal, c'est le petit bonhomme Lego.
L'homme normal, c'est le petit bonhomme Lego, parce qu'on se ressemble tous et qu'on travaille tous. Avec un petit trou dans la tête, d'ailleurs. On est un petit peu décérébré, pour le coup.
Et qu'on peut pas plier les genoux.
Voilà.
T'allais répéter, genre, oui, il a dit un truc intéressant.
Merci. Bref, et donc voilà ce petit bonhomme Monopoly qui explique à son fils le fonctionnement du capitalisme pour que lui-même puisse prendre la relève le moment venu. Et donc du coup c'est voilà, c'est très didactique, c'est très bien expliqué. Moi je conseille vivement la lecture parce que ça simplifie énormément l'économie. Alors certes, encore une fois, avec un point de vue très marqué, mais ça permet de comprendre quand même une bonne partie des rouages économiques.
J'ai trouvé quand même le dessin un peu brouillon, vraiment, enfin brouillon dans le sens un peu trash, tu vois, c'est posé un peu en vrac, j'ai l'impression que ça m'a donné.
Alors tu dis ça parce que les traders sont représentés façon Jason.
Ouais, mais enfin je sais pas, il y a un côté vraiment, alors en plus les choix graphiques sont assez surprenants, c'est de la bichromie noire-verte.
C'est ça, bah le vert, on est sur la couleur de l'argent, hein.
C'est pas sur de l'espoir.
On est sur le vert du dollar, pas sur le vert de l'espoir, je crois pas, non.
Voilà. Et c'est vrai que moi, sur le dessin, sur le coup, j'ai eu du mal au départ. Et puis après, une fois qu'on est dedans, le propos est tellement bien raconté. Et ça illustre tellement bien le propos, en fait. Ça s'imbrique très, très bien.
C'est ça. Moi, le dessin m'a pas du tout gêné. Hein.
Ouais. Bah, moi, c'est sur le départ. Je n'étais pas convaincu. Et puis, en fait, ça finit par couler tout seul.
Et puis voilà. Après, pour éviter que ce soit lourd, pesant... Il y a plein de références à la pop culture, justement, comme tu disais. Alors, les petits bonhommes Lego, le Raran par-ci, le Jason pour les traders, et on en a encore des...
Oui, il y a du Terminator.
Du Terminator, on en a à l'appel, hein, tout le long de la bande dessinée, c'est pas ce qui manque. Hein. Bref, c'est très bien foutu, c'est très intelligent. Encore une fois, c'est partial, mais chacun peut avoir des choses à y retrouver et à comprendre là-dedans. Une bonne bande dessinée, One Club proof.
Voilà, si vous voulez vous flinguer la vie après avoir dépensé plein de sous à Noël.
C'est ça. Alors pour le bac, cette fois-ci mention éco, vous pouvez offrir la survie de l'espèce.
Ok, donc on va faire une émission spéciale bac pour en juin, on va essayer de faire un truc là-dessus.
Ben, on n'était pas dans les bacs là. Si, si.
New York de Olivier Vatine, basé sur le roman de Stéphane Bull.
Même sur l'univers de Stephen Bull.
Oui, enfin le roman en particulier. Parce que je l'ai lu, mais moi le roman je l'ai lu quand j'étais jeune, tu vois, j'ai un souvenir ému. C'était illustré par un jeune dessinateur qui s'appelait Enki Bilal, en sous-collection Folio Junior. Et
moi j'ai toujours pensé qu'il avait de l'avenir, ce mec.
Ouais, et c'était beau. Et puis en plus c'était ce qu'on pouvait retourner pour avoir les questions à la fin.
C'est ça.
Et si c'était par la fin que tout commençait.
Mm-hmm.
Donc, Stéphane Uvul est un auteur de SF qui est décédé, je ne sais pas quand, mais il n'y a pas très longtemps. Qui a écrit assez peu de romans. Il était dentiste à la base. Hein. Il a continué à être dentiste, d'ailleurs. Oui, oui. Vous voulez avoir plein d'infos sur Stéphane Uvul et puis aussi sur cette BD, en tout cas plus que tout ce qu'on va pouvoir vous dire là-dessus. Je vous recommande le podcast d'Agence Tout Geek, dans lequel ils ont reçu Olivier Vatine et son éditrice. Il vous raconte un peu toute la genèse et il vous fait un peu le point sur Stéphane Bull aussi, parce que dans les membres de l'agence Too Geek, il y a des cerveaux de fous furieux pour tout ce qui concerne l'histoire de la science-fiction. Que nous raconte ce tome en particulier? C'est l'histoire d'un jeune enfant noir dans une tribu, enfin c'est la fin du monde. Hein.
Le tome 1 s'intitule L'enfant noir.
Donc il y a eu une sorte d'apocalypse et en gros tout le monde est retombé à l'époque un peu préhistorique, hein, c'est l'ambiance.
C'est ça.
Et il y a un enfant noir, en fait le chaman du local aimerait bien le buter parce qu'il est noir en fait et que tout le monde est blanc et que c'est pas normal qu'il soit né noir, c'est louche.
C'est ça. C'est le vilain petit canard.
Et le chaman part dans la montagne pour aller demander les auspices aux dieux lointains, etc. Et il revient pas. Et l'enfant noir se dit, bon, je vais pas trop attendre qu'il revienne, je vais aller voir ce qui se passe là-bas avant de me faire buter, quoi. Ce serait plus malin. Et il part à l'aventure là-bas pour comprendre ce qui va se passer. Il se retrouve dans la grande ville. Et là, on voit que c'est une grande ville...
post-apo.
Qui est post-apo, qui s'est écrasée, etc. Et on va suivre les aventures de cet enfant... Et en parallèle aussi de la tribu, hein, qui a de nombreuses déconvenues, et qu'il arrive pas à des choses très très drôles. Pour tout vous dire, il y a aussi des poulpes mutants.
Oui, alors oui.
On en reparlera tout à l'heure peut-être, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, c'est un bon scénario. Moi j'ai mis mélange, il y a un mélange de genres que je trouve assez bien foutu.
Moi j'ai mis Raon dans Lost.
Raon dans Lost, oui. Oui, c'est...
On a donc la présence de l'ours. Cette fois-ci, il n'est pas polaire, mais on a quand même l'ours qui accompagne l'enfant. Il y a des choses qui sont totalement anachroniques. Forcément, on est post-apo, donc il y a certaines choses qui peuvent paraître très très anachroniques parce qu'au départ, on est vraiment dans une ambiance préhistorique.
Oui, le môme a quand même un fusil, une sorte de fusil sur la couverture.
Voilà, c'est ça. Et puis il rencontre tout un tas de choses bizarres, étranges, machin. Et donc ce côté Lost, parce que effectivement on peut croiser tout et n'importe quoi, on se retrouve dans la jungle et puis pouf, il y a un bunker, et ben là c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que on est sur la plage, pouf pouf le feu, et puis pouf pouf on a l'impression qu'on va voir les martiens débarquer.
C'est à peu près le cas.
Ce qui est quasiment le cas. Et donc voilà, il y a cette espèce de... Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais on est toujours un petit peu en déséquilibre et dans la situation de tout peut arriver.
Ouais.
Et au niveau du scénario, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette espèce d'équilibre. On ne sait pas réellement où l'on peut aller parce que ça reste très vaste. Toutes les portes sont ouvertes. Mais c'est bien fait. C'est très bien fait. Mais oui. Alors vraiment, moi en tant que lecteur, je me suis senti toujours un petit peu sur la corde raide, toujours un petit peu en déséquilibre. Tombé. Jamais tombé. C'est en ça que j'ai dit que c'était très bien fait. Mais alors voilà, on ne sait pas vraiment où on va, mais on y va gentiment.
Et puis c'est grandement aidé par le dessin de Olivier Vatine, qui est un génie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'on voyait plus beaucoup ces derniers temps. Il a surtout fait des designs, lancé des séries, des trucs à gauche à droite, il était directeur de collection. Et là, on voit le grand Vatine, quoi. Moi, j'ai mis poster pour le dessin, parce qu'en gros, la moitié des planches, j'aimerais bien avoir un poster dans ma chambre.
Moi, j'ai marqué ombre et lumière. On est vraiment là-dessus. Il y a un gros travail sur les personnages et sur leur regard, sur leurs sensations, même sur les plans plus larges. Il y a là aussi un gros travail, je trouve, sur l'ombre et la lumière. Et c'est vraiment ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on a de ce côté mise en lumière, on est dans une ambiance préhistorique où il n'y a plus rien. Et puis, derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent se tramer. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et on ne sait pas exactement dans le détail ce qui est arrivé, mais on sent quand même qu'il y a que ça va impacter grandement le scénario, alors que ces personnes-là n'y sont pour rien. Bref, c'est très très bien fait, c'est très très riche et on sent qu'il y a beaucoup de profondeur derrière.
Puis moi, j'ai un truc que j'aime bien chez Vatine, c'est qu'il a un trait un petit peu cassant, tu vois, des traits un peu raides, un peu secs, mais tu vois, c'est du bambou, quoi, c'est super souple, c'est... Ouais. Il y a une sorte d'équilibre justement dans son dessin, en se disant il a vraiment quelque chose de très très tendu dans le trait et qui pourtant passe tout seul. C'est très dynamique au niveau de l'action, c'est superbe.
Ça se lit extrêmement bien.
La collection, une collection qui s'appelle Les Univers de Stefan Vuhl, qui a pour objectif d'adapter tous les romans de Stefan Vuhl en BD. Donc New York est prévu sur 3 tomes.
Chez Ankama, on n'est pas chez Futuro, hein.
Non, c'est chez Ankama. Il y a déjà Homme sans série qui est sorti, il est prévu Piège sur Zarkas, La peur géante, etc. Et toujours des auteurs qui aiment les projets. Ce qu'ils disaient dans le podcast de l'agence Too Geek, c'est que leur objectif, c'était d'avoir des auteurs qui ont envie de le faire. Donc Olivier Vatine est directeur de la collection, ils se sont amusés à donner un petit côté vieillot, couverture, bien sympa.
Ouais, moi c'est pas ce qui m'a le plus plu pour le coup, hein. J'avoue que...
Ah ouais, moi j'aime bien ce côté vieux livre, etc.
Moi je trouve que ça fait vraiment très has-been, hein. J'aurais vraiment préféré autre chose.
Ça donne une identité à une collection qui, je pense, va avoir des styles graphiques et des adaptations très très variées.
Ouais, ouais, voilà.
Alors Stephen Bull, vous le connaissez peut-être pas pour New York, qui est son bouquin le plus connu, parce que je crois qu'en fait il a été recommandé à un moment, c'est un auteur français, donc et le bouquin était recommandé en scolaire à une époque.
Sur la liste ministérielle ?
Ah ouais.
Waouh.
Mais il y a des adaptations de ces bouquins en film.
Ah.
D'animation. Il y a eu Les Maîtres du Temps, avec un design de Monsieur Moebius. Et il y a eu Homme sans série, qui avait été traduit La Planète Interdite, avec des dessins de Roland Topor. J'ai pas vu La Planète Interdite, mais ce sont... de très très beaux dessins. Moi, Les Maîtres du Temps, je suis fan.
Il y a du nom, il y a du nom.
Voilà pour New York que nous recommandons aussi, en fait. On n'arrête pas de recommander.
Oui, complètement. Ouais, mais aujourd'hui, c'est que du bon, c'est que du bon, on n'y peut rien. En même temps, c'est moi qui les ai achetés. Blotch!
Page! Les vacances. Les vacances, c'est le moment où on a plein de temps pour faire plein de choses et surtout pour ne rien faire. Ce dont nous avons profité. Et ça va être la thématique globale de cette splash page, ce petit bonus que je n'ai pas préparé avec beaucoup d'attention pour votre bien à tous. Nous allons vous parler de chambre noire. Mais qu'est-ce que la chambre noire ? Cela serait-il une référence à la caméra oscura dont déjà Léonard de Vinci nous parlait en son temps ? Ou bien alors aux travaux de Nicéphore Niépce, le grandiose Nicéphore Niépce, qui avait découvert que grâce au nitrate d'argent et au principe de la chambre obscure, on pouvait imprimer une image ? Il faut savoir que l'image était imprimée à l'envers. Et c'est pour cela qu'on peut constater qu'étonnamment, chambre noire à l'envers se dit Herion Herbmack. Quelque chose qui a un sens très profond. Et je vous invite vraiment à réfléchir au sens caché de cette phrase.
Bonjour, nous venons chercher un certain monsieur Le Borgne.
Ah non, il n'y a pas de Le Borgne ici.
Monsieur, nous avons une photo de vous-même. Vous voulez bien mettre votre petite chemise blanche avec les manches dans le dos, s'il vous plaît, et puis vous allez nous suivre, hein ?
Oh, très saillant, très saillant.
Allez, on y va. Merci.
Oui, c'était minable comme introduction, mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est les vacances, d'habitude, c'est Thio qui nous donne l'inspiration, et là, il a rien glandé. Il fait chier à être malade. Hein.
Thio, tu es notre muse. Et tu n'es pas là.
Chambre noire.
Tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis.
Thio, tu me manques.
Quand tu t'en vas.
Oui, c'est bon. Hein ? Donc, Chambre Noire, une bande dessinée chez Vent d'Ouest en 3 tomes. Le 3e tome est sorti il y a peu par Olivier Blé, ou je ne sais pas, et Yomgi Dumont. Déjà, on va commencer par faire preuve de transparence totale et remercier Yomgi Dumont, qui écoute notre podcast, coucou, et qui a dit « Ah, si vous voulez, je vous envoie mes BD, vous pouvez en dire le mal que vous voulez. »
Eh ben... on prend le contre-pied, on va pas dire du mal.
Voilà, on a été complètement sous le charme. Alors voilà, donc c'est un cadeau d'un auteur. On le met pas en avant parce que c'est un cadeau d'un auteur. Vous pouvez le croire si vous voulez, hein, théorie complotiste, etc. On est vraiment tombé amoureux de cette bande dessinée, d'où le grand merci à Yomgi pour ce cadeau.
Merci.
On veut le mettre en avant. Mais de quoi ça nous parle donc que Chambre Noire, mon cher Tizak ?
Alors, Chambre Noire, on va suivre les aventures de la famille Pemouquet, qui possède un magasin de photos, de photographie fluidique, pour reprendre les termes utilisés. Grosso modo, ce sont de bons gros arnaqueurs, c'est-à-dire...
Oui. De bons gros arnaqueurs.
Ils font des photos en mettant en avant le fait que sur la photographie, on pourra avoir l'image du fantôme, donc du défunt, dont la famille est venue parler au préalable à la pseudo-médium de la famille, sachant que cette Ninon, la médium en question, est la fille de la famille, l'une des enfants de la famille. Le père est toujours en vie, bien que sérieusement imbibé d'alcool, mais avec une certaine bonhomie. C'est pas du tout l'ivrogne. Il a pas du tout l'alcool mauvais. Il a c'est un gentil bonhomme. On apprend d'ailleurs par la suite que l'ensemble des enfants de la famille ne sont pas des enfants naturels, hein, mais beaucoup sont adoptés, sauf Ninon, qui est la seule légitime. Mais la maman de Ninon, elle, est décédée. Mais d'une certaine façon, elle est toujours là, car elle-même était médium, et le papa est artiste peintre, et il en a fait un portrait, et au miracle, le tableau parle, en tout cas communique, et Ninon peut l'entendre, la maman est décédée, mais toujours là, finalement.
Il faut aussi parler du grand-père.
Ah oui, joli personnage qui a donc fait la Cochinchine, l'Indochine, bref, il est revenu d'Asie avec un Asiate, hein, qui le traîne par
Gang Li Cheng,
et qui a donc toujours cette petite référence asiatique à la guerre de droite ou la guerre de gauche, le beau tatouage, et qui est un doux rêveur, hein, qui aime bien chercher de l'or. Dans la scène, oui, avec son chien, parce que son chien flaire les pépites.
Oui, c'est un chien très particulier.
C'est un chien très particulier, d'ailleurs qui devient de plus en plus particulier au fil des albums.
Son tout devient particulier au fil des albums. Alors, en fait, on suit toute cette famille se séparer dans tous les sens à plusieurs moments, mais tous les personnages servent.
Voilà, tous les personnages servent, exactement. Et donc, on a notamment des jumeaux dans cette famille qui, à un moment donné, se font enlever. En sortant des abattoirs où ils vont boire du sang. Enfin, on est quand même.
Oui, parce qu'ils sont.
On est situé à la fin du 19e. Hein.
Oui, alors faut pas s'étonner. Hein, c'est juste parce qu'ils ont un petit problème. Zut, j'ai oublié comment s'appelait cette.
D'anémie.
D'anémie et que donc, bah, on recommandait de boire du sang.
Du sang de bœuf frais.
Voilà. Contre l'anémie.
Contre l'anémie, exactement. Et donc ils se font enlever, ils disparaissent. La famille se met en quête de les retrouver. Et il va leur arriver tout un tas d'aventures.
Ils se retrouvent mêlés à un complot.
Mêlés à un énorme complot.
Avec une société secrète.
Voilà.
Qui enlève des enfants.
La salamandre.
Qui enlève des enfants. Mais pour leur faire des choses terribles. Et puis pas n'importe quels enfants.
Chut. Tu en dis trop.
Bah, la BD commence quand même sur un accouchement.
Eh oui.
Où on a une jeune fille qui va dans une maison
close. Eh ben, elle est dans close, une maison close.
Et où, en gros, elle va accoucher. On va tenter de lui enlever son enfant.
C'est cela. Ses enfants.
Ses enfants. Oui, parce que c'est des jumeaux. Toujours.
Ce sont des jumeaux.
Toujours
encore,
des jumeaux.
Encore des jumeaux.
Oh, des jumeaux. C'est étrange. Mmh, comme c'est étrange.
Comme dirait ma
femme. C'est plein de mystères. Plein de questions. Toutes les réponses sont données.
En trois tomes.
En trois tomes. C'est plein d'humour.
Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'inférences, il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de petits clins d'œil, et notamment par la maman dans le tableau. Il y a plein de petits jeux de mots avec ça, c'est extrêmement malin. Et donc on finit en trois tomes, cette histoire complète, et on la finit bien. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de facilité, c'est très bien monté, c'est très bien construit.
C'est ouvert sur une suite, mais c'est pas une suite...
Pour avoir d'autres aventures, finalement, pour essayer de retrouver plus ou moins les mêmes personnages, mais
voilà.
Pas réellement pour une suite à cette histoire-là. Bref, c'est du tout bon. Alors, en ce qui concerne le dessin, Pierrick.
Eh bien, pour le dessin, j'ai mis expressionnisme, et je pense à l'expressionnisme allemand. Très cher, avec le cinéma, tu vois, toutes ces perspectives déformées, tous ces clairs-obscurs, ces personnages dans l'ombre, ce trait un peu gras, il y a un petit côté Tim Burton dans l'ambiance.
C'est ça, c'est ça. Notamment les yeux.
Voilà, et puis un dessin au trait, avec un trait très prégnant, un ancrage très fort, un noir qui est très intéressant, des couleurs qui sont sympathiques en soi, mais qui sont là plus pour poser une ambiance que pour donner de la couleur, quoi.
Moi, j'ai mis « Tout est dans les ombres ». Donc, effectivement, la couleur est utile et sympathique, hein, mais il y a plus de travail sur le trait et sur l'ombre. Enfin, en tout cas, il y a plus d'intérêt là-dedans que dans le reste de la couleur.
Mais on pourrait parler aussi du travail graphique, en fait. Il y a un travail graphique sur le
troisième tome, c'est flagrant, c'est impressionnant.
Bah, moi, je parlais du travail graphique plus de maquette, du bouquin. Ça commence comme un article avec des vieilles des extraits de journaux, des vieilles photos. On retrouve un extrait de journal dans le tome 3.
Oui.
Chaque début de tome commence par quelque chose qui remet un peu dans l'ambiance, qui est un peu long, hein, parfois.
Oui,
lire,
même,
mais
c'est même long, hein, mais c'est comme du bonus en fait, mais qui sert l'histoire.
Voilà, qui sont bien foutus avec de l'humour. On a un dessin humoristique qui ouvre la BD, qui est tout con. Oh, voilà, je crois qu'il m'a converti au spiritisme. Enfin, on retrouve un peu un ton qui va bien à l'époque. Et puis, en plus, ça, je trouve ça progresse au fur et à mesure des tomes. C'est-à-dire que dès le tome 2, ne serait-ce que la façon dont sont présentés les noms des auteurs, de leurs travaux précédents, il y a eu un grand progrès. Franchement, c'est très 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 réussi. Moi, je trouve que c'est de la très très belle édition.
Oui. L'édition en elle-même est très belle.
Voilà. Et bah le travail de maquette, on voit qu'il y a eu vraiment une recherche pour en faire un bel objet qui soit agréable à lire, à feuilleter, qui tient la route, et les dessins, bah qui vont super bien dans tout ça.
C'est ça. Donc, moi, je marquais tout dans les ondes pour le dessin.
Voilà.
On est là-dedans. Une belle édition, un beau dessin. Le scénario qui est ultra complet.
Alors, parfois, on se perd un peu dans les mises en page sur certains moments. On a un petit peu de flou, mais c'est pas très gênant. C'est juste, je vais pas dire que du bien non plus. Hein. Après, on va croire qu'on est vraiment vendu.
Mais écoute, là, moi, je sors de la relecture de Lorenz Hatch, et pour le coup, il y a certaines planches qui étaient vachement plus complexes à lire que dans Chambre Noire. Donc, pour le coup, c'était presque easy reading.
Alors maintenant, il y a peut-être aussi une volonté hein, d'avoir ces moments où on se perd, où il va faire disparaître les bords de cases, où on ne sait plus trop dans quel sens on va. C'est ce côté un peu labyrinthique quand il se retrouve.
Oui.
Certains passages, enfin, c'est très très riche en fait. C'est aussi. C'est une grande qualité, mais c'est-à-dire qu'en gros, on a envie de la relire plein de fois, et voilà, moi, c'est clair, c'est un truc que je vais relire.
Complètement, oui.
Parce que je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont échappé au premier, à la première lecture.
Et puis au-delà de la lecture, simplement refeuilleter pour le plaisir les planches, parce que là aussi, ben, comme tu le disais, hein, il y a plein de travail sur le dessin. Enfin, ça c'est moi qui disais tout à l'heure sur les visages où effectivement on va confondre la salamandre avec certains personnages, le chien qui même si c'est un personnage plutôt secondaire,
il est drôle,
il est génial, ce chien il est très utile dans l'histoire pour que les personnages puissent se retrouver. Ben, bref,
puis il y a une sorte de côté avec des faux semblants naïfs, je dirais. Dans le sens où on nous dit que tel truc est capable de faire ça, et on fait « Ah, je veux dire, c'est arnaqueur, etc. » Ben en fait, non, c'est vrai.
C'est ça. Puis c'est des petites choses qu'on va retrouver plus tard.
Oui, c'est très bien construit au niveau du scénario.
C'est un scénario très bien construit, c'est des petits objets qui vont finalement nous servir sur la fin. C'est... Bref.
Ben moi, pour le scénario, j'ai mis « feuilleton ». Au niveau du mot. On retrouve cet aspect des vieux feuilletons qui cadrent avec l'époque où se passent les bouquins. Hein.
C'est pas faux.
Ça doit être quoi? Ça, c'est du fin 19e? Ouais, non, début.
Le scénario, c'est.
Non,
fin
pardon,
19...
c'est, ouais, ça doit être fin 19e. Hein.
Oui, oui, c'est ça. Donc, 1877, c'est spécifié en tout début, voilà. Du tome 3.
Donc, on retrouve un peu, tu vois, ce côté des feuilletons populaires qu'on avait à l'époque, mais populaires dans le sens qu'on retrouve de partout. Et pourtant, c'est chiadé, quoi. C'est...
Ah oui, complètement. Complètement. Ben, moi, je marquais Royaume des Ombres.
Oui.
Parce que, bon, j'ai pas trop envie de spoiler, mais les deux mots sont importants, aussi bien le mot royaume que le mot ombre. L'ombre sert pour le dessin, mais sert aussi pour toute la partie spirit.
Oui.
Parce que la présence des esprits est réelle, on va dire, au niveau du scénario.
Oui, aussi des savants fous.
Oui, il y a aussi des savants fous. C'est vrai.
Enfin, c'est pour dire la richesse, quoi. Il y a de la science, du savant fou.
Ben, on est en ce début de 19e où tout est possible. C'est-à-dire que la science, la magie, la photographie.
Le médium de cirque.
Le médium de cirque. Vraiment, il y a un petit peu tout qui se mélange. Et qu'est-ce qui relève à l'époque, je n'ai pas encore la connaissance scientifique et du coup c'est de la magie? Ou alors qu'est-ce qui relève vraiment de la magie? Bref, il y a un petit mélange des genres là-dedans qu'on retrouve assez régulièrement dans cette époque, hein, qu'on pouvait retrouver dans des Sherlock Holmes ou ce genre de choses, ou dès qu'il y avait une petite invention. Edward Norton, j'ai oublié le nom, dans le film où il joue un magicien qui travaille sur les images.
Je ne sais plus précisément.
Le prestidigitateur, c'est
ouais,
ça
peut-être, je ne sais plus.
Ou l'illusionniste, un truc comme
l'illusionniste.
Ça. L'illusionniste. Bref, parfois on est un petit peu dans cette espèce d'ambiance-là, dans cet imaginaire-là. Bref. C'est très très bien monté, c'est très très bien construit, les dessins sont absolument géniaux.
Là, on voit la racine de la construction, c'est dans la séparation des groupes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnages, vraiment, il y a beaucoup de personnages, ils se retrouvent très vite séparés. Et pendant tout le deuxième tome, ils sont chacun de leur côté à faire leur truc. Ils se retrouvent pour le troisième tome, pour le grand final, hein, et chacun va avoir son utilité, va servir avec ses particularités, son ton, son... Et on est dans la bande dessinée. Alors dans le genre, moi j'avais mis que c'était de l'ésotérisme jeunesse parce que ça passe. Ouais, il y a un côté jeunesse. D'ailleurs, ça avait été sélectionné en 2011 en jeunesse Angoulême.
Angoulême, ouais.
Pourtant, ça reste très grand public. C'est ce que j'appelle pour moi le top de la littérature jeunesse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire lire à des gosses auxquels ils vont prendre un grand plaisir. Bon, après, s'ils accrochent à ce genre d'univers aussi, hein.
Bien sûr.
C'est un peu les univers, là, Orphelin Baudelaire, les trucs
ouais,
comme
ouais,
ça.
Complètement. Mais il y a de l'humour, donc ça.
Oui, voilà. Mais il y a aussi un côté.
Il y a une vraie lecture adulte.
Ouais, adulte qui. Sans, et étonnamment, là, sans avoir besoin de plusieurs niveaux de lecture.
Non. Non, non. C'est que simplement, y a des informations dont les enfants ne vont pas tenir compte et qui vont faire écho chez les adultes en termes d'histoire. Il y a plein de petites inférences là comme ça qui traînent et qui vraiment vont pouvoir faire écho. Pour revenir sur la quantité de personnages, au sein de la famille, on tourne à 9 personnages.
Oui.
Qui vont se séparer en 3 ou 4 groupes, sans compter ensuite les histoires donc de sociétés secrètes.
Parce qu'on voit les méchants d'un côté.
Les groupes de police, parce qu'il n'y a pas qu'un seul groupe de police.
Oui.
C'est impressionnant au niveau de la construction. Comment ne pas se perdre dans tout ça? Il y a un vrai travail préparatoire. On part pas un peu à l'aventure dans tous les sens. C'est très malin et c'est très intelligent. Ça a été fait vraiment de manière précise.
Alors, Olivier Blaise, le scénariste, est un romancier hein, à la base, qui a écrit pas mal de romans qui ont eu du succès. Il me semble que Semper Augustus a très bien marché. Il a même eu réussi à avoir, pour je ne sais plus comment s'appelle le bouquin, le prix François Mauriac de l'Académie française. Ça fait classe, tu vois.
Ouais, c'est classe de faire la référence aussi, Pierrick. Vas-y, comme il se la pète, lui.
Attends, un prix de l'Académie française. Et donc, il s'est mis à la BD. Alors, je sais pas si... Enfin, clairement, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que c'est pas un truc qu'il a adapté pour de la BD, mais que c'est quelque chose qu'il a écrit pour de la BD. C'est l'impression que ça m'a donné.
Faire une interview.
Ouais, faudrait. Ouais, ce serait classe. Yomgi Dumont, lui, c'est vraiment illustrateur, beaucoup plus axé illustrateur jeunesse. D'ailleurs, apparemment, il a une série qui cartonne pas mal, qui s'appelle Raff et Potatoes, qui est toujours en cours, selon BD Gestes, et qui est vraiment axé très, très, très jeunesse. Et ce qui est marrant, c'est de voir la différence de ton. C'est très lumineux, Raff et Potatoes, dans les dessins que j'ai pu voir sur le net. Et là, il s'est vraiment adapté à ce style.
Mais il y a du trait encore.
Ah oui, bah, il y a son style, quoi.
Ouais, il a sa patte.
Que
dire de plus ?
Bah, que dire de plus que c'est bon, mangez-en. Hein.
C'est relativement rare qu'on ait des BD comme ça où il n'y a pas grand-chose à reprocher. Et où on est unanime en plus, parce que Mathieu n'est pas là, mais Mathieu a adoré aussi. Voilà.
En gros, un scénario et un dessin en adéquation, un travail de l'objet, de la maquette, qui est une réussite, je trouve.
Ouais, l'édition aussi.
Voilà, oui, c'est ça. Tout l'objet, toute la maquette, etc. est très réussi. On ne peut que recommander.
Et encore remercier.
Oui, merci Yomgi.
Online.
Nous allons maintenant vous parler... d'un blog d'un auteur qui s'appelle Reineke. Alors Reineke, c'est la deuxième fois qu'il apparaît dans notre rubrique online, car j'en avais parlé auparavant pour une bande dessinée qui est sortie depuis aux éditions Warum Vraum, qui s'appelait je ne sais plus comment, un bébé je ne sais plus quoi, donc je vais me faire flinguer.
Bravo, ouais, le mec sais. A bien préparé sa chronique.
Bon, bref, c'est un truc que j'avais trouvé très très drôle, que j'avais lu à l'époque sur le site de Manolo Sanctis, si je ne m'abuse. Et donc, il a un blog sur lequel il raconte le making-of du film d'animation Ernest et Célestine. Car Reineke s'est retrouvé réalisateur de ce film. Et donc, il s'est amusé, en préparant la sortie du film, hein, qui est sorti il y a quelques semaines, là, pour les vacances, à revenir sur toutes les bases, sur comment ça s'est passé, en faisant de la bande dessinée, en racontant ses diverses rencontres avec le producteur, qui l'appelle Monsieur Didier, avec Daniel Pénac, qui est l'auteur du scénario, et puis aussi toutes les techniques de travail avec les dessinateurs, le travail de la musique, le travail de l'animation, toutes les étapes clés de la conception, le travail avec Monsieur Lambert, qui fait la voix de l'ours, hein, Lambert Wilson, comment il s'est retrouvé au milieu de tout ça, surtout qu'apparemment il s'est retrouvé un petit peu catapulté. Hey, j'ai bien aimé votre film, votre court-métrage de sortie d'école, vous voulez pas tourner Ernest et Célestine ? C'est fait avec beaucoup d'humour et d'humilité, c'est très 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 drôle, c'est très très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses, donc il y a comme ça 26 articles sur le blog. Je vous recommande de remonter en haut et de tout relire du début. Ça donne énormément envie de voir ce dessin animé, qui a l'air vraiment superbe. Pour
oui, qui marche pas mal d'ailleurs.
Ouais, bah il le mérite, parce que franchement, ça a l'air superbe. Je connaissais pas l'auteur d'origine, parce que c'est basé sur des livres jeunesse.
Oui.
Et bah, ça m'a donné envie de découvrir cet univers. Et en plus, il s'amuse à mettre des petites animations pour montrer les étapes avant, après, etc. Il y a un vrai travail sur le making-of qui est génial. Et j'espère bah, que le film va bien marcher. Et même s'il marche pas, allez voir le blog de Reineke, reineke.canalblog.com, sur lequel bah, il nous montre tout ce making-of. Et je trouve ça super sympa. Et que c'est un très très bon échange, très très drôle.
Bonne lecture.
Et c'est fini pour cet épisode. Cette fois-ci, le générique n'étant pas lancé en direct, je vais avoir un peu plus de temps pour parler, parce que Tizak, la dernière fois, il a voulu me couper la parole parce qu'il en avait marre de notre live. Alors il a envoyé le truc très vite et j'ai dû parler très 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 vite pour finir. Ce qui n'est pas forcément un mal.
Bah écoute, au début, j'avais du mal à envoyer les jingles, et puis à la fin, j'étais chaud comme à la braise. Hop hop hop, ultra rapide.
C'est pour ça que je vous dirais que on va parler un petit peu de ce qui vous attend l'an prochain dans le One A Club.
2013.
Normalement, on devrait avoir un peu de matos pour travailler un peu différemment. On a déjà commencé par un nouveau micro. J'espère que ma voix n'en est que plus agréable. D'autres, j'espère que mes comparses vont s'équiper aussi. On devrait avoir une petite table de mixage qui nous permettra de tout travailler, les envois de jingle en live, etc. On va voir si on peut continuer à faire du live. On va voir dans quelles conditions, dans quelles circonstances, voilà, avec les différents partenaires avec qui on va travailler. On va essayer de trouver la formule la mieux. J'espère qu'on va réussir à se fondre avec Synops parce que, franchement, leur plateforme est très sympa.
Ça marche quand même.
Et qui nous ont super bien guidés et bien aidés.
Ils ont été très disponibles.
Oui, voilà, c'est ça.
Super cool.
Et puis on vous annonce, alors ça fait un moment qu'elle traîne dans nos stocks, l'interview de Barbara Canepa, mais comme il fallait qu'on récupère les BD machin chose, enfin un truc compliqué,
en fait on lui a confié des BD, elle les a gardés et du coup on a du mal à finir de les lire et pour pouvoir chroniquer tout ça.
Voilà, mais on va y arriver,
on va y arriver.
Voilà, grâce à nos gentils libraires, j'ai réussi à avoir la BD qu'on voulait chroniquer pour la lire.
Merci la BDerie à Aix-en-Provence.
Oui, on vous aime. Et ensuite on va aussi suivre, comme tous les ans, le festival des Calanques et des Bulles.
Oui.
Cette année, ça devrait être un peu plus zen que l'an dernier.
J'espère qu'on sera trois.
Voilà. Tu espères qu'on sera trois. Et puis en plus, tu seras plus rodé sur comment ça marche un podcast.
Oui, et puis surtout, je serai rodé parce que j'aurai préparé des questions sur les auteurs présents.
Et tu seras moins timide.
Non, moi, ça va. Moi, ça va. Tu me connais.
Voilà. Et puis, je serai là.
Ouais.
Tout du long.
Ouais.
Voilà.
Tu porteras les micros.
Et je serai pas papa le lendemain du.
Non.
du festival. Ou alors. Ou alors, il y a un secret bien caché. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes, bonne année, parce que je pense que la plupart d'entre nous vont nous écouter en 2013, hein, parce que.
Comme on dit dans le sud, à Bomboudan.
Voilà. Non mais je pense que la plupart des gens, vu que ça va être diffusé le 30, autant te dire qu'à moins qu'ils nous écoutent pendant leur réveillon.
Attends, nous on fait ambiance de réveillon.
Super.
Ambiance et quotidien.
C'est la fête. Encore merci de nous écouter. On se retrouve peut-être dans 15 jours, peut-être un peu plus, le temps qu'on se remette des fêtes.
Ce qui est sûr, c'est que ce sera l'année prochaine.
À bientôt. Ciao, ciao.
Bye bye. PS, à la fin de l'émission, on fait quand même une petite dédicace à notre Thio préféré, qui n'est pas parmi nous, et nous a quand même manqué pendant l'émission.
Ouais, qu'ils se remettent bien, parce qu'ils sont censés nous faire à bouffer pour le réveil. Oh putain, on va tous être malades.